Avant tout, je voudrais dire bonjour à tous ceux qui sont parmi nous, qui sont nouveaux, et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous encourage parmi nous. Ça nous fait bien plaisir de vous voir et de voir des frères et sœurs. C'est un grand privilège, une grande grâce. Les enfants, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui est prévu pour eux, mais oui, c'est comme ils veulent. Eh bien, ce matin, j'ai pensé à un texte biblique qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4. Ce sont les versets 14 à 16. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Eh bien, quand nous lisons la parole de Dieu, nous lisons les évangiles, nous voyons que le Seigneur Jésus-Christ un jour est né dans une étable et qu'il a vécu une vie d'homme au milieu d'un peuple, et puis qu'il a été crucifié, il est ressuscité, et il est assis auprès du trône de Dieu pour l'éternité. Ça, c'est l'histoire que nous connaissons, et c'est l'histoire merveilleuse de l'intervention de Dieu dans l'histoire de l'humanité. Et c'est vrai que nous, quand on regarde cela, on voit que ce côté est extérieur. Mais quand on se place du côté de Dieu, eh bien, on voit les choses tout à fait différemment. On voit le Fils de Dieu qui descend sur la terre au milieu de gens qui ne l'aiment pas et qui ne veulent pas de lui et qui sont rebelles. Et qui, au fur et à mesure qu'il grandit et qu'il parle et qu'il fait tout ce que aucun homme n'a jamais fait, eh bien, les gens le haïssent de plus en plus jusqu'au moment où il est crucifié et il est mis au tombeau, il est ressuscité. Ça, c'est le côté de Dieu. Et en fait, c'est le réel côté. C'est en fait le Dieu vivant qui est venu habiter au milieu de nous. Nous étions des pécheurs. Nous étions perdus dans nos péchés. Nous avions fait des choses que Dieu désapprouve. Nous avons été rebelles vis-à-vis de Dieu. Mais un jour, le Fils de Dieu est venu. Ce verset que j'aime beaucoup dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, il est dit, mais Dieu. Et ça change tout. Nous étions ceci, nous étions ça, c'est toute une liste. Mais Dieu, c'est le point, le tournant de l'histoire de l'humanité. Alors que nous étions perdus, Dieu est intervenu. Et nous retrouvons dans ce texte que je vous ai lu ce Fils de Dieu qui est mort sur la croix. Et ça, c'est le côté invisible. Il est mort sur la croix, les gens l'ont vu crucifié, il a été mis au tombeau. Mais à partir de ce moment-là, il est entré dans le ciel même. Et il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas conçu par un homme. Il est entré dans la présence même de Dieu. Vous aviez un tabernacle qui était, pendant quelque temps, on l'a eu au fond de la salle, et il doit être quelque part dans le bureau, mais avec tous les éléments et toutes ces choses-là. Mais ce tabernacle n'est qu'une représentation de quelque chose de plus grand et de plus merveilleux, de plus parfait, qui est de l'autre côté. Et quand le Seigneur Jésus est entré, il a traversé ce tabernacle depuis l'autel des Holocaustes, là où Jésus-Christ a été crucifié. Il est passé par toutes les étapes de ce tabernacle et il est arrivé dans la présence même de Dieu. Il est entré devant le Père avec son sang. Il y avait dans la partie la plus centrale du tabernacle un lieu qui s'appelait le lieu très saint. Le souverain sacrificateur seul, aucun autre homme ne pouvait entrer dans cet endroit-là. Et le souverain sacrificateur seul y entrait une fois par an. Il avait beaucoup de fumée autour de lui, parce qu'il avait un encensoir qui faisait beaucoup de fumée, et il avait du sang. Il entrait, il faisait l'aspersion du sang, et il ressortait. C'est vraiment tout ce qu'il pouvait faire dans la présence même de Dieu. Et ce n'était qu'une image de la réalité céleste. Mais le Fils de Dieu, lui, a traversé le tabernacle. Il est entré dans le lieu très saint, dans la présence même du Père. Il n'est pas entré avec de la fumée et tout cela. Il est entré avec son propre sang. Et il l'a présenté au Père. Et il a dit, voilà, la dette est payée. Je suis ému quand même, parce que c'est quelque chose qui est grand et qui est merveilleux et qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Il est entré dans la présence du Père avec notre rachat, le prix payé pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Et quand je lis ce verset, il est pour moi un des plus sublimes. Ben, si vous me connaissez un petit peu, vous verrez que je vous dirai toujours que ce verset est un des plus sublimes. Et parce que ce sont des versets qui ont tellement touché mon cœur que... Et en fait, quand je lis ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, il a traversé les cieux. Il est entré dans la présence même de Dieu avec son sang. Et il l'a offert dans la présence même de Dieu. Vous vous rendez compte à quel prix vous avez été racheté? Vous vous rendez compte le côté grandiose de votre salut, de votre rachat? C'est un bien si précieux que les anges peut-être voudraient être des pécheurs pour avoir été rachetés de cette manière. C'est eux jamais n'auront droit à un pareil rachat. Jamais le Fils de Dieu est mort pour un ange. Jamais il est mort pour nous des pécheurs, des hommes et des femmes qui avons transgressé les lois de Dieu, qui avons fait le mal, qui avons fait des choses qui déplaisent à Dieu. Et lui, il nous a donné non pas un sacrifice, même pas un homme, le Fils de Dieu. Dieu lui-même, la partie la plus chère de Dieu, parce que le Père aime le Fils infiniment. Je ne peux même pas décrire l'amour du Père, tellement il est grand et tellement il dépasse toute imagination humaine. Il a donné son Fils pour nous, et ce Fils nous a aimés. Je me rappelle, j'ai déjà dû le raconter, parce que c'est quelque chose qui m'a profondément touché. Mais pendant des années, j'ai lu Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Si quelqu'un, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce verset pour moi était tellement important, mais je ne comprenais pas. Alors je me suis dit, pour l'avoir toujours avec moi, je vais l'apprendre par cœur. Je l'ai appris même dans plusieurs versions de la Bible. Je ne me rappelle plus que d'une. C'est peut-être l'essentiel. Mais je l'ai appris et je me le récitais constamment. Et je ne le comprenais toujours pas. Et puis un jour, j'étais en train de méditer la parole de Dieu et j'ai lu une petite méditation. Et il est dit, le Fils de Dieu qui m'a aimé. Une partie simplement de ce verset. C'est le jour des émotions. Le Fils de Dieu qui m'a aimé, je suis tombé à genoux. Il m'a aimé. Il n'y aurait qu'un être humain sur la terre, pécheur, ce serait moi. Le Fils de Dieu aurait donné sa vie pour moi. Le Fils de Dieu m'a aimé. Aimé infiniment. Et vous pouvez le répéter pour vous. Le Fils de Dieu qui vous a aimé et qui vous aime infiniment. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Gardez toujours vivant en vous cette pensée que vous êtes précieux aux yeux de Dieu et qu'il a donné sa vie pour vous, qu'il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, un tabernacle qui est céleste. Il est entré dans le ciel même, il est entré dans la présence du Père avec le sang, il a présenté son propre sang, il a donné sa vie pour vous. C'est quelque chose d'immense, immense, quelque chose qui dépasse toute compréhension humaine, toute explication humaine. On ne peut que le ressentir. Il ne peut y avoir que Dieu qui nous le dit. On en sait les mots, mais quand Dieu nous en donne la vérité, la substance, les mots ne suffisent plus. Nous le savons. Il y a quelque chose de précieux, d'infiniment grand et plus parfait que tout ce que nous pouvons imaginer, que tout ce que l'homme peut expliquer. Et ça, c'est la merveille du plan de Dieu, de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Ça, c'est votre héritage. C'est ce que Dieu vous a donné, c'est ce qu'il vous a offert. Et quand je vous vois, mes chers frères et sœurs, je vois les personnes aimées de Dieu, chéries de Dieu, pour lesquelles le Fils de Dieu a traversé les cieux plus grands et plus parfaits qui sont dans le ciel, qui sont le ciel même, et dans la présence de Dieu, il a présenté le sang, son sang, pour vous, pour chacun d'entre vous. Ça, c'est quelque chose de précieux. Gardez-le précieusement. Une chose certaine, Satan essayera toujours de vous faire déchoir de cet avantage, de cette conviction. Il vous amènera toujours dans des formes, dans une certaine religiosité, dans des habitudes chrétiennes. Mais la réalité même, c'est le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour vous, qui a porté son sang dans la présence du Père, par amour pour vous, par un amour infini, si grand et si parfait qu'aucune langue humaine ne peut l'expliquer. C'est tandis que quand vous êtes dans les formes, eh bien vous avez enlevé la vie à cette réalité et vous vous contentez des formes. Et beaucoup de chrétiens, malheureusement, se contentent d'une forme de vie chrétienne. Je vais au culte dimanche matin et cela suffit. Ils font une petite prière le matin, ils lisent un verset biblique, ils ferment leur Bible et tout est réglé pour la journée. Peut-être que le soir, ils ouvrent de nouveau leur Bible et encore, et des choses de ce genre. Voilà, on est dans les habitudes, on n'est plus dans la vie. La vie chrétienne, ça s'appelle une vie chrétienne. Nous sommes vivants et nous devons vivre une vie chrétienne. Nous ne sommes pas des chrétiens du dimanche. Vous ne cessez pas d'être... je ne sais pas trop comment tourner mon illustration, mais vous êtes au travail, eh bien, vous êtes employé de cette entreprise. Vous partez, vous n'êtes plus l'employé. Vous allez à tel endroit au supermarché, vous êtes un acheteur de supermarché. Vous quittez le supermarché, vous n'êtes plus un acheteur, vous êtes un consommateur et vous êtes à table. Vous changez de tout ce que vous voulez dans toutes les situations de votre vie. Mais pas chrétien. Quand vous êtes chrétien, vous l'êtes constamment. Vous vous réveillez la nuit, vous êtes chrétien. Vous marchez dans la rue, vous êtes chrétien. Vous êtes au travail, vous êtes chrétien. Vous êtes, quoi que vous fassiez, vous êtes des chrétiens. Vous menez une vie chrétienne. Et cette vie chrétienne doit se manifester. Il y a une manifestation de la vie chrétienne. Et ça, c'est très important. Si nous ne manifestons pas cette vie, il y a un problème. Nous n'avons peut-être pas tout compris. Nous avons mis peut-être certaines choses de côté. Peut-être que nous laissons un péché dominer dans notre vie. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la vie de tous les jours, c'est votre vie chrétienne. Et là, c'est même la vie de la nuit. C'est la vie de 24 heures sur 24, de tous les jours de votre vie. Ce n'est pas simplement une parenthèse dans votre vie. La vie chrétienne. Et alors, le verset 14 nous dit « Demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Et je vous ai dit tout cela pour arriver là. Parce que nous avons une foi que nous professons. Ici, ce n'est pas simple, l'acte de foi, mais la chose de la foi. C'est-à-dire que la chose dans laquelle nous plaçons notre foi, excusez-moi de dire la chose, je n'ai pas vraiment un autre mot qui me vient à l'esprit, mais c'est l'objet. Vous mettez votre foi dans quelque chose. Et c'est de ça qu'il est question ici. Ce n'est pas de l'acte de foi en lui-même. Et nous avons donc ce que je vous ai décrit tout à l'heure, cette grandeur, cette immensité que nous avons, tous ces privilèges, toutes ces, non seulement ce que nous avons aujourd'hui, mais ce que nous aurons plus tard, qui est bien plus grand et bien plus merveilleux que ce que une bouche humaine peut décrire, parce que nous ne comprenons pas et nous ne savons pas ce qu'il y a même de l'autre côté. Nous savons que ce sera encore plus merveilleux. Vous avez la paix avec Dieu, et je peux dire que nous pouvons avoir dans notre cœur une paix qui surpasse toute intelligence, qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Nous aurons bien plus quand nous serons de l'autre côté, parce que nous n'aurons plus le péché, nous n'aurons plus toutes ces désobéissances et tout ce qui diminue et amoindrit notre vie chrétienne. Mais nous avons tout cela, et ça, c'est la réalité. Ce sont des choses réelles. Et ce monde voudrait toujours nous détourner de l'essentiel, nous détourner de Jésus-Christ. Et c'est donc notre responsabilité en tant que chrétien, c'est de demeurer ferme. Vous êtes dans une position et vous résistez. Dans cette position, Satan essaye toujours de vous détourner. Il essaye de vous convaincre d'une chose ou d'une autre chose. Quand une chose ne marche pas, il essaye une autre. Vous prenez la tentation de Jésus-Christ au désert. La première tentation n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il en a essayé une troisième. Une deuxième. La deuxième n'a pas marché, il a mis une troisième. Bon, il a attendu une occasion plus favorable. Trois, il s'est arrêté. Il s'est dit, je vais attendre une occasion plus favorable. L'occasion plus favorable ne nous est pas forcément décrite. Mais il a essayé, toute la vie du Seigneur Jésus-Christ, il a essayé de le tenter, de le corrompre et de le détourner de la mission. Donc, mais lui est demeuré ferme. Et c'est ce que la parole de Dieu nous enseigne, demeurer ferme. C'est un acte volontaire. La parole de Dieu nous dit demeurer ferme. Ce n'est pas que nous attendons de demeurer ferme. Nous devons demeurer fermes. C'est le problème pour beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils attendent que Dieu fasse quelque chose. Et combien de fois j'ai entendu des chrétiens dans des entretiens qui m'ont dit, oui, mais quand le Seigneur va intervenir, il fera. Le Seigneur ne fera rien si vous ne le voulez pas. C'est malheureusement, beaucoup de chrétiens vivent dans l'illusion. Je me rappelle d'une femme, c'était la femme d'un pasteur, malheureusement. C'était une femme de mauvaise vie. Et je peux vous dire, si j'étais à un endroit, je ne restais jamais seul avec elle parce qu'il y avait des problèmes avec elle. Hein. Toujours. Elle aimait l'argent et beaucoup d'autres choses en plus. Et alors, je fuyais. Et un jour, elle m'a dit, ma vie sera changée quand j'aurai découvert ce qui ne va pas dans ma vie. Alors une personne lui avait dit, oui, j'ai eu une prophétie qui me disait que tu as un péché que tu as commis dans le passé et que quand tu l'auras confessé, alors le péché, la prophétie ne lui avait pas dit quel péché. Ça aurait été bien intéressant de lui dire au moins quel était le péché. Et alors elle était allée lui raconter ça, et puis la personne vivait dans l'illusion que le jour où on lui dirait quel péché elle a commis, tout irait bien. Elle réglerait sa vie. Et alors donc, elle ne faisait plus aucun effort. Elle se laissait aller et elle vivait dans la débauche. Et je me dis quand même, nous avons dans la parole de Dieu des promesses certaines et nous devons nous y attacher. C'est un acte déterminé. Vous n'attendez pas d'avoir la foi. Ayez la foi. Ne tendez pas d'avoir une inspiration pour prier. Priez. La parole de Dieu nous dit de faire les choses. Si vous attendez l'opportunité, vous l'attendrez toute votre vie, elle n'arrivera jamais. Parce qu'il y a des promesses positives dans la parole de Dieu, des enseignements qui sont clairs. Si vous ne les pratiquez pas, c'est votre faute. C'est ici, vous avez demeuré ferme dans la foi que vous professez. Eh bien, demeurez ferme. Et n'attendez pas plus de force que celle qui vous est demandée ici. Si la parole de Dieu vous dit demeurez ferme, alors demeurez ferme. Et je peux vous dire, je pourrais citer des multitudes d'exemples. Cela nous amène au verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Il a été tenté. Il a eu des oppressions. Il y a eu des moments difficiles. Il y a eu des moments de très forte tension où Satan lui dit, mais vas-y, oh, laisse aller. On est venu le faire roi. Vas-y, c'est bon. Il a refusé. Et on lui a dit, mais fais un miracle. Pas de miracle. On lui a dit, fais. Il a dit non. Il a toujours obéi au Père, quoi qu'il lui en coûte. Et ce verset 15 est le commentaire de demeurer ferme dans la foi que nous professons. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est demeuré ferme dans la foi qu'il professait. Il est lui-même l'exemple, le meilleur exemple que nous puissions avoir. Je me rappelle d'une personne, c'est chrétienne. Et cette personne, un jour, il y avait le voisin, c'était un beau jeune homme, grand, costaud, un peu d'argent. Et puis, il abandonnait sa femme et ses enfants pour la personne. Alors, c'était vraiment merveilleux. Quand elle m'a dit ça, oh vraiment, et j'espère qu'il va se convertir. Je dis, mais tu es dans l'illusion complète. C'est si jamais il se convertit, il retourne avec sa femme et ses enfants. C'est la première des choses. C'est la parole de Dieu a dit non. D'abord, on ne se marie pas avec des inconvertis. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais la personne croyait qu'elle allait le convertir. Mais à partir du moment où elle a eu cette pensée qu'elle allait le convertir, c'est le jeune homme qui l'a converti à son idée. Et au fur et à mesure, elle a été convertie, qu'il a abandonné sa femme et ses enfants, c'est pas le plus grand, meilleur amour qu'il pouvait avoir. Mais elle s'imaginait pas qu'un jour elle pouvait faire la même chose avec elle. Ensuite, il a converti à l'idée que le culte. Écoute, hein, tu vas pas. On travaille tous les jours le dimanche, hein, c'est pour nous. Hein, alors le dimanche, on vient pas au culte. Et il a converti. Et au fur et à mesure, ça a été la débauche. C'est la descente. On descend, on descend. Parce qu'on a désobéi une fois et on descend, on descend. Et on croit que l'on va convertir la personne, mais c'est elle qui nous a convertis. Dès que l'on a saisi l'idée que l'on va la convertir, on est sur un très mauvais chemin, parce que la parole de Dieu dit non. Et vous avez, le Seigneur Jésus a été confronté. Ces pierres sont des pierres, mais tu peux les changer en pain. Tu as le pouvoir de le faire, pourquoi tu ne le ferais pas? Il pouvait convertir des pierres en pain. C'est une belle conversion, n'est-ce pas? Et il pouvait le faire, mais le Seigneur Jésus a refusé une pareille conversion, parce que, non pas qu'il n'avait pas faim, il avait faim. Certainement, il avait faim. Après 40 jours, je peux vous dire qu'on a faim. J'ai jamais essayé 40 jours, mais je sais qu'on a faim à un certain moment, et même très faim. Mais il avait faim. Mais le problème, c'est qu'il n'obéissait pas à la voix de Satan. Il obéissait à la voix de son père. Dieu a vraiment dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche du Père. Il dit, je ne veux pas me nourrir de ton enseignement et de tes directions, tes suggestions. Je veux me nourrir de ce que dit mon Père. C'est-à-dire, si mon Père ne m'a pas dit de changer ces pierres en pain, eh bien, je ne le ferai pas. Parce que je vis d'abord des paroles du Père. Et dans la parole de Dieu, vous avez des enseignements très, très, très clairs. C'est d'une limpidité absolue. C'est la raison pour laquelle nous devons méditer et approfondir la parole de Dieu. Non pas simplement pour avoir une connaissance biblique, mais pour nous appuyer sur la parole au moment de la tentation et de dire Dieu a dit, Dieu a parlé. Mais beaucoup de chrétiens restent dans le vague et dans une mauvaise connaissance. Parce qu'ils se disent que ne connaissant pas suffisamment, eh bien, ça leur donne beaucoup de liberté. Et donc, ils ne lisent pas beaucoup, ils ne prient pas beaucoup, ils ne cherchent pas Dieu, parce que comme ça, ils font un peu ce qu'ils veulent. Je ne savais pas. Mais Dieu nous tient pour responsables de ce qu'il a dit dans sa parole. Et il est dit, sondez les Écritures. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. C'est je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu doit être prise au sérieux. Ce n'est pas simplement de bonnes recettes pour se sortir de mauvaises situations. C'est la parole de Dieu est faite et est écrite pour notre instruction, pour que nous sachions comment nous diriger dans la vie chrétienne et dans la vie de tous les jours. Nous sommes face à un monde où des gens viennent nous dire, mais non, il n'y a pas de problème, tu vas pas faire ceci, tu vas pas faire ça, mais fais ça. Il y a une sagesse du monde, et cette sagesse du monde est à l'encontre de la sagesse de Dieu. Si le monde dit une chose, sachez que toujours, il est en porte-à-faux par rapport à l'enseignement de la parole de Dieu. C'est pour le monde, eh bien, le bonheur, vous avez beaucoup d'argent, vous êtes marié avec un certain type de personne, vous avez ceci et cela, vous avez une maison à Paris, une maison à la mer, une maison à la montagne, vous avez deux ou trois voitures, vous avez ceci, vous avez ça, vous êtes heureux. Eh bien, je peux vous dire une chose. Si vous avez toutes ces choses et que vous n'obéissez pas à Dieu, que vous êtes en désaccord avec Dieu, vous serez malheureux. Il vous manquera l'essentiel. C'est la communion avec Dieu. Vous ne pouvez pas brader la communion avec Dieu pour le moindre avantage sur cette terre. Si vous perdez la communion avec Dieu d'une manière ou d'une autre, vous êtes perdant. Même si vous avez gagné le monde entier, même si vous avez tous les honneurs du monde, même si vous avez, je ne sais pas ce que le monde aime, mais si vous avez toutes ces choses que tout le monde apprécie et que vous n'avez pas la communion avec Dieu, vous êtes pauvre, vous êtes malheureux. C'est malheureusement, beaucoup de chrétiens sont dans l'illusion parce que comme ils sont très attachés à tout ce que dit le monde, ils sont gavés de médias de ce monde, ils sont imbibés de la pensée de ce monde, si bien que le bonheur, eh bien, c'est ceci, le bonheur, c'est ça, le bonheur, c'est ça. Mais le bonheur est en Dieu et en Dieu seul. Le bonheur, il est dans la communion avec Dieu. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez ceci ou que vous soyez cela, cela n'a aucune importance. L'important, est-ce que vous êtes en communion avec Dieu? Est-ce que à l'instant présent, vous pouvez dire oui, j'ai la paix avec Dieu dans mon cœur? Alors vous êtes parfaitement heureux, tout va bien. Que vous ayez ou que vous n'ayez pas, cela n'a absolument aucune importance. C'est, il y a une pensée du monde qui va contre la pensée de Dieu. Il y a une sagesse du monde qui est contre la sagesse de Dieu. Et si vous suivez les préceptes de ce monde, eh bien, vous aurez toujours des problèmes. Parce que vous ne serez pas en paix avec Dieu. Mais le Seigneur Jésus, lui, a été tenté exactement comme nous sommes tentés. C'est, il n'y a pas forcément les mêmes tentations que il n'a pas, par exemple, été tenté de voler. Je ne pense pas que ça, il y ait une tentation de ce genre. Mais néanmoins, il a été tenté de bien d'autres manières et il sait ce qu'est la tentation. Il sait ce qu'est être dans la tentation, ce qu'est être harcelé par Satan. Et lui, quand Satan pousse à quelque chose et dit, mais voyons, pourquoi est-ce que tu ne ferais pas une petite concession pour ça? Après tout, tu es le fils de Dieu. Regarde ces pierres. Elles sont pas appétissantes? Surtout si tu regardes sous forme de pain. Allons, laisse-toi aller. Et le monde essaye toujours comme cela. C'est le... Mais le Seigneur Jésus a su résister à la tentation. Pourquoi? Parce qu'il est demeuré, ferme dans les choses qu'il savait vraies. Et nous, nous devons faire exactement la même chose. C'est le, nous savons certaines choses. Nous savons qu'elles sont vraies. Et nous devons nous tenir à ces choses. Elles sont vraies, alors nous les aimons, nous les chérissons. Nous chérissons la parole de Dieu. Nous chérissons l'enseignement de la parole de Dieu. La vérité de la parole de Dieu. C'est ce matin, je lisais un verset. On écrira sur les beaucoup de choses, hein. Sainteté à l'Éternel. Mais je me dis, mais qu'est-ce que ce sera merveilleux, sainteté à l'Éternel. C'est le. Il y a des moments où certains passages, nous sommes près de Dieu. C'est. Il y a un écho. y a quelque chose qui parle. Mais beaucoup de personnes vont lire, ben, sainteté à l'Éternel. Allons. Ce sera écrit sur les chevaux, leur harnachement. Ce sera écrit sur les cloches. Ce sera écrit sur beaucoup de choses. Sainteté à l'Éternel. Tout va bien. Mais il y a quelque chose qui... Sainteté à l'Éternel. Il y a une vie. Il y a une profondeur. Il y a une vérité. Il y a un amour de la sainteté. Il y a un amour de la communion avec Dieu. Il y a une recherche de la présence de Dieu qui fait que quand on dit sainteté à l'Éternel, il y a quelque chose qui vibre en nous. Et on se dit oui, Seigneur, ma vie, je veux qu'elle soit sainte. Je veux que ma vie soit propre. Je veux que ma vie soit pure. Je veux que ma vie t'honore. Je veux que si tu jettes un regard sur moi, tu ne trouves rien à redire. Je ne veux pas qu'il y ait de mensonges. Je ne veux pas qu'il y ait de même un soupçon de quelque chose qui n'est pas droit. Vivre une vie entièrement à la lumière, une vie de communion avec Dieu, une vie où Dieu est vraiment honoré, où il est regardé saint dans notre vie. Nous nous approchons du Dieu saint et nous voulons que notre vie soit sainte, qu'elle soit propre. Ensuite, le verset 16 nous dit: Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Et je peux dire une chose, c'est qu'il y a des pressions, il y a des tensions tellement fortes parfois, où Satan essaye toujours de nous faire tomber. Il y revient, il y revient, il y revient. Si vous 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 lassez, lui ne se lasse pas. Il ne va pas se fatiguer comme ça. Si vous n'avez pas recours à la protection et à la délivrance de Dieu, il vous usera. Parce qu'il y a un harcèlement. On parle du harcèlement dans notre monde. C'est une notion qui arrive tout juste pendant des siècles. On ne s'est pas aperçu qu'il y avait des gens qui harcelaient les autres. Mais maintenant, on voit qu'il y a des harceleurs, excusez-moi le mot. Et on avance de plus en plus, il y a de nouvelles donnes. Mais nous sommes harcelés par Satan. Il y a un harcèlement. Et il y a même des gens qui sont conduits par l'ennemi pour nous harceler. Et ils vont essayer, et ils vont essayer, et ils vont essayer, et ils vont essayer. Vous dites, mais je ne céderai jamais. Même si je devais en mourir, je ne céderai pas. Et je peux vous dire, il y a des moments où on peut être aux urgences, hein, et je sais de quoi je parle, parce que on n'a pas cédé. On n'a jamais, on ne pourra céder, jusqu'à la mort, même s'il faut mourir, on ne cédera jamais à la désobéissance. Mais nous avons un grand Dieu qui est là pour nous secourir, pour venir. C'est le trône de la grâce. Et je vous ai parlé tout à l'heure de ce tabernacle immense qui est dans le ciel même. Le Seigneur Jésus est entré dans le ciel avec son sang et il l'a apporté devant le Père. Dans le Saint des Saints, il y avait l'arche de l'Alliance et le propitiatoire. Le propitiatoire, c'était une plaque d'or qui était posée sur le coffre, l'arche de l'Alliance, et il y avait les chérubins. Et en fait, c'est un trône. C'est le trône même de Dieu. Et cette plaque en or s'appelait le propitiatoire. Et c'est là qu'était mis le sang. C'était dans la présence même de Dieu et là où Dieu est assis. Et quand nous approchons avec assurance du trône de la grâce, nous nous approchons du propitiatoire, là où le sang a été déposé. Et c'est là que Dieu nous est propice. Dieu nous est favorable. Dieu est réconcilié avec nous et nous sommes plutôt réconciliés avec lui. C'est là, à cause du sang, que nous pouvons nous retrouver pleinement reçus et que nous pouvons dire à Dieu, Père. Et il nous écoute. Il écoute nos prières. Et donc, notre responsabilité, c'est de nous approcher avec assurance de ce trône de la grâce. Parce que le sang a déjà été porté, il a coulé, il a effacé nos péchés, il est là. Et nous nous approchons du trône de la grâce, du propitiatoire, là où Dieu nous est favorable. Et il n'y a que cet endroit-là où Dieu est favorable. C'est parce que là, il y a le sang. Si vous vous approchez de n'importe quoi d'autre, eh bien, vous ne trouvez pas Dieu favorable. Ce n'est pas vos idées, ce ne sont pas votre manière d'être, parce que vous êtes merveilleusement bien, mais c'est seulement parce que il y a le trône de la grâce et le propitiatoire et là où se trouve le sang. Et vous vous trouvez dans la présence même de Dieu. Et vous avez confiance absolument dans le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour vos péchés, qui les a effacés entièrement, qui vous a purifiés. Vous êtes devant le trône de la grâce, de la miséricorde. Alors on s'approche avec assurance. Nous sommes dans l'assurance parce que cela dépend de Dieu. Ce n'est pas notre œuvre. Ce ne sont pas nos œuvres, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre merveilleuse du Seigneur Jésus-Christ. Il a versé son sang pour nous. Alors nous nous approchons avec assurance sur la base même de l'œuvre parfaite de Jésus-Christ, qui a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait, qui a porté son sang et qui a effacé nos péchés. Et le Père a approuvé cette œuvre. Et quand nous sommes tentés, quand nous sommes dans la détresse, quand nous sommes harcelés, quand des humains sont cajolants, qu'ils essayent, mais non, mais tu verras, c'est pas de problème. Mais oui, moi je suis favorable, je connais. Et oui, moi je suis favorable. Oui, on ira au culte, on ira aux réunions. Ah, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et quand vous êtes tenté, que vous avez des personnes qui viennent et qui vous sollicitent, et oh, c'est gentil, c'est parfait, c'est merveilleux, et tout est présenté sur le beau côté. Mais une fois marié, oh, c'est. Eh bien, on s'approche du trône de la grâce pour être secouru, parce que nous sommes fragiles, nous ne sommes que des humains, nous demeurons fermes dans la foi que nous professons, mais néanmoins, nous avons tellement besoin de la présence de Dieu. Il y a un pas de foi, on demeure ferme dans les choses que l'on sait vraies, et on se confie en Dieu pour nous secourir et pour nous donner la force de tenir ferme jusqu'au bout. Et Satan essaiera jusqu'au bout. Il essaiera même de vous tuer parfois. Mais il ne pourra jamais aller plus loin que ce que Dieu a permis. Parce que il est bridé. Il ne pourra pas aller plus loin. Quand Satan a réclamé Job, Dieu lui a dit, épargne sa vie. Il lui a fixé une limite. Oh, il avait beaucoup d'autres et il a utilisé tous les moyens possibles. Hein. Il est allé jusqu'à la limite que Dieu lui avait fixée. Job n'est pas mort. Mais tout juste. Hein. Mais Dieu lui avait dit, tu ne touches pas à sa vie. Et ça, c'est une limite que Satan, les humains, tout ce que vous voudrez, ne pourront pas accomplir. Je pense aux trois amis de Daniel, et ils ont dit au roi, tu ne pourras pas faire plus que Dieu le permettra. Et ils ont été jetés dans la fournaise, et ils n'en sont pas morts. Les hommes qui les ont jetés sont morts, pas eux. Parce que il y avait avec eux comme un fils d'homme. C'était le Seigneur Jésus qui était au milieu d'eux, avec eux, pour les fortifier. Et à ce moment-là, Satan était vaincu. Même dans la puissance du plus grand roi qu'il y avait sur la terre, le plus grand roi ne pouvait pas les faire mourir, parce qu'il y avait le Dieu Tout-Puissant. Mais il faut s'approcher du trône de la grâce, lutter parfois. C'est un corps à corps avec Satan. Et il y a des chrétiens qui ont lutté des jours et des nuits parfois pour obtenir la victoire. Et grâce à Dieu, ils l'ont obtenu, parce qu'ils sont allés jusqu'au bout. Nous nous approchons du trône de la grâce. Et nous avons raison de faire confiance à Dieu, qu'il interviendra et qu'il agira, quoi que pensent les hommes, quoi que pense tout ce que vous voudrez. Dieu restera toujours le Dieu Tout-Puissant. Il s'est délivré, il s'est encouragé, il s'est fortifié. Nous, notre responsabilité, c'est de tenir ferme, de regarder à celui qui a donné sa vie pour nous, de regarder là où le sang a été posé, de regarder à celui qui est immuable, qui dépasse tout ce que l'homme peut imaginer, qui a fait une œuvre si grande et si parfaite que nous ne pourrons même pas la décrire et nous, dans l'éternité, nous connaîtrons mieux que nous connaissons aujourd'hui. Mais nous marchons aujourd'hui par la foi et par l'obéissance. Nous obéissons à la parole de Dieu. Dieu a vraiment dit, et nous ne voulons pas faire quelque chose que Dieu désapprouve. Parce que si nous faisons quelque chose que Dieu désapprouve, nous choisissons le chemin de l'homme, la sagesse humaine, et donc nous ne pouvons plus compter sur Dieu. C'est quand nous choisissons l'obéissance à la parole de Dieu, quoi qu'elle coûte, même si ce n'est pas dans la sagesse humaine, et c'est rarement suivre la parole de Dieu est rarement approuvé par le monde et par la sagesse humaine, mais tant pis. C'est alors vous pouvez compter sur Dieu. Vous pouvez compter sur le trône de la grâce et vous approcher avec assurance du trône de la grâce. Mais si vous avez choisi vos propres voies, si vous avez choisi votre propre délivrance, si vous avez choisi de désobéir sciemment dans quelque chose que Dieu a dit clairement dans sa parole, alors ne vous approchez pas du trône de la grâce, parce qu'il n'est pas pour vous. Vous ne faites pas confiance à Dieu. Vous avez choisi un chemin qui n'est pas celui de Dieu. À moins que vous demandiez pardon, que vous reveniez à Dieu, que vous mettiez en règle les choses, que vous abandonniez le péché, que vous abandonniez la désobéissance, que vous condamniez avec la parole de Dieu la désobéissance, alors vous pouvez de nouveau vous approcher du trône de la grâce. Et beaucoup de personnes et de chers frères en Christ ne savent même plus prier parce que le péché est dans leur vie. Ils sont incapables de s'approcher du trône de la grâce. Ils n'ont plus la foi nécessaire pour s'appuyer sur Dieu. Ils s'appuient sur quoi? Ils ont choisi le chemin de la sagesse humaine. Alors, quand on est dans le chemin de la sagesse humaine, la sagesse de Dieu est une folie. Mais dès que la sagesse humaine est une folie et la sagesse de Dieu est la vraie sagesse, alors tout va bien. Mais nous devons faire bien attention à la manière dont nous menons notre vie chrétienne. Quelle voie nous choisissons? Est-ce que nous choisissons le bon chemin? Si vous êtes dans le bon chemin, vous pouvez être au bénéfice de toutes les grâces de Dieu. Mais si vous avez choisi un mauvais chemin, si vous faites votre propre volonté, si vous faites vos propres choix, alors vous allez dire: Seigneur, bénis-moi, je suis dans l'adultère, je suis dans le vol, je suis dans le mensonge, je suis dans la désobéissance, Seigneur, bénis ma vie. Alors, soyez raisonnable, ne mentez pas, parce que vous êtes complètement dans l'erreur. C'est dans le chemin de l'obéissance que vous avez la bénédiction. En dehors de ce chemin, vous n'avez pas la bénédiction. Au contraire, vous avez Dieu en colère, Dieu qui châtie, Dieu qui intervient. Et beaucoup de chrétiens disent: Satan, non, c'est pas Satan, c'est Dieu lui-même. Je pense à ce verset où il est dit que Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, c'est pas Satan. C'est l'orgueilleux trouve Dieu dans son chemin. C'est Dieu lui-même avec une épée ardente qui est en face d'eux pour les détourner du mauvais chemin. C'est le chemin de l'orgueil, de l'ambition et de toutes ces choses. Il y a Dieu qui est là, au milieu du chemin, comme dans l'histoire de Balaam. Et bien, on n'a même pas une ânesse pour nous reprendre. Et alors, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous avons souvent besoin de secours. Nous avons souvent besoin que Dieu intervienne, qu'il agisse dans notre vie, qu'il nous prenne par la main. Vous savez, c'est des moments précieux où nous sommes délivrés de Dieu. Vous avez été dans une épreuve, vous avez été dans des difficultés, et vous avez Dieu qui intervient et qui vous sort de cette épreuve. Et alors, vous dites: Seigneur, je te rends grâce. Combien c'est précieux d'avoir un Dieu comme toi, un Dieu qui prend soin de moi. Le plus tendre Père n'est pas plus tendre que notre Père céleste. Le plus tendre Père ne nous comprend pas aussi bien que notre Père céleste. Le plus tendre Père ne sait pas nous aimer comme notre Père céleste. Ne vous trompez pas de chemin. Demeurez ferme dans la foi que vous professez. Vous avez des biens supérieurs à tout ce que le monde peut vous offrir. Ne vous laissez pas prendre au piège de ce monde. Il essaiera toujours de rendre les choses plus brillantes et plus merveilleuses que ce qu'elles sont en réalité. La réalité, c'est Dieu. C'est ce qu'il a fait pour nous. C'est les privilèges que nous avons. C'est la paix. C'est la joie qui met dans notre cœur, c'est le fruit de l'Esprit, c'est la présence du Saint-Esprit en nous. Ce sont des biens si grands et si précieux. Ne les bradez pas pour les choses de ce monde, parce que les choses de ce monde n'ont aucune valeur. Elles ne dépasseront pas votre tombe. Je termine avec cette petite histoire. Il y avait des héritiers assez qui voulaient l'héritage. L'oncle était mort. Et alors, le notaire c'était dans un village. Le notaire était parmi aux obsèques. Et alors, il y a un des héritiers qui est arrivé. Il lui a dit « Et combien laisse-t-il » Comme ça, il a osé. Tout le monde le pensait, mais on savait qu'il laissait beaucoup. Mais tout le monde le pensait, tout le monde voulait le dire, il y en a un qui a osé. Et le notaire l'a regardé droit dans les yeux. Il lui a dit tout. Il a tout laissé. On aurait aimé avoir un chiffre, mais en fait, il lui a vraiment dit la vérité. Il a même laissé ses chaussures, ses pantalons, il a laissé sa chemise, il a laissé, il est parti, il est entré devant son juge sans doute, nu, comme il est né. Parce que c'est la fin de tout homme. Et c'est, vous avez tout ce que vous voudrez. Le monde peut vous offrir tout. Quand vous serez dans la présence de Dieu, vous serez seulement avec la justice de Christ, avec votre vie chrétienne vécue pour lui et livrée entièrement à lui. Vous serez avec le Saint-Esprit qui a rempli votre vie. Vous serez avec les choses spirituelles, ce que vous avez mis en avant. Qui vous ont précédé, vos bonnes œuvres. Mais pour le reste, tout restera sur la terre. Et le monde essaye de faire croire que ça, c'est merveilleux. Mais c'est des choses qui vont disparaître et qui vont être perdues un jour ou l'autre. Nous allons prier. Ô Père céleste, notre Dieu, nous voulons te demander que nous soyons des sages, Seigneur. Mets ta sagesse en nous, parce que nous avons tellement besoin de la sagesse divine, ta sagesse. Nous avons besoin que tu nous donnes tout ce qui est nécessaire, Seigneur, pour comprendre et pour être des sages. Non pas des sages selon ce monde, mais des sages selon toi. Que nous sachions nous conformer à ta parole, nous appuyer sur elle, vivre d'une manière qui te glorifie entièrement, parce que tu es notre Dieu, parce que nous trouvons le secours en toi. C'est toi notre richesse, c'est toi notre plus grand bien. Nous sommes dans la joie avec toi. Tu es notre bonheur suprême, tu es notre parfait. Tu nous combles, Seigneur. Nous n'avons rien de mieux que toi. Ô Seigneur notre Dieu, remplis notre vie jusqu'à déborder, et que vraiment, Seigneur, nous soyons heureux de t'appartenir. Jour après jour, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.